Et Aman a fini ça, il était dépité. Il est donc parti dire à sa femme, vraiment, c'est une situation, je n'ai rien compris. Mais on est venu le chercher pour aller à l'invitation de la reine. Il est parti avec le roi. Mais toujours déterminé, malgré tout, à demander, malgré le fait qu'il venait d'élever le Mardoché, il était toujours déterminé à demander que vraiment Mardoché là, ne mérite pas ça. Il faut qu'on donne-moi l'ordre de le tuer. Mais quand ils sont arrivés chez Esther, c'était le jour J. C'était un bon jour d'action. Le roi demande à Esther. Le roi a demandé à Esther, que veux-tu, Esther, que je fasse pour toi? Et Esther répond, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Et elle dit encore, si nous étions même vendus pour devenir des esclaves et des servantes, je me tairais. Parce qu'après tout, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage qu'il fait au roi en lui ôtant sa reine. Oh, le sang du roi n'a fait qu'un tour. Le sang du roi n'a fait qu'un tour. Mais qui veut faire cela? Qui veut commettre un tel crime à mon égard? Esther répond. Esther répondit. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Dis que l'ennemi soit saisi de terreur au nom de Jésus. Que l'ennemi soit saisi de terreur quand il sera exposé. Alléluia. Que l'ennemi soit saisi de terreur devant les anges de l'Éternel. Amen, amen. Et le roi, dans sa colère, il se leva du festin. Perturbé, il sortit. Pendant qu'il est dehors, Aman essaye d'avoir la clémence de Esther. Il se leva de sa place, il alla vers Esther pour essayer de supplier pour qu'on lui laisse la vie parce qu'il avait compris que son sort était scellé aux yeux du roi. Mais malgré malheur pour lui, à ce moment, le roi rentre et trouve que Aman est penché sur Esther. Et dans sa tête, ça n'a fait qu'un tour encore. Et il s'est dit, mais non seulement tu veux exterminer avant, mais maintenant, même à ma présence, tu veux atteindre, porter atteinte à sa vie. Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans mon palais? Et dès que cette parole est sortie, vous savez, des gardes qui sont autour du roi, eux ne réfléchissent pas deux fois. Ils comprennent le langage de leur patron. Les gardes se sont seulement jetés sur Aman. Et l'ont lié. Et il y a un eunuque qui a dit au roi, il y a même dehors là, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché. En fait, il venait comme ça là, il voulait tuer même Mardoché. Et Mardoché qui a parlé pour le bien du roi, Aman voulait le tuer. Et le roi a dit, qu'on aille y pendre lui-même, pendez-y Aman. Et c'est comme ça que Aman fut pendu au propre bois qu'il avait préparé pour quelqu'un d'autre. Que ceux qui fomentent des plans pour la destruction des autres, oh Seigneur Dieu, qu'ils tombent sur le coup de ta justice au nom de Jésus. Que toi-même ta mère passe dans ta bonté infinie, que tu délivres Seigneur ceux qui sont condamnés et que toi-même tu établisses ta justice, oh Dieu de gloire, car toi seul connais la vérité. Et toi seul est un Dieu miséricordieux et qui a compassion. Alléluia. Amen, amen. Et comme Aman était déchu, La parole nous dit, en ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman. Ça veut dire le poste où était nominé Aman, le pouvoir qu'avait Aman. Désormais, Esther n'est plus que reine. Esther n'est plus seulement la reine. Esther a déjà des pouvoirs gouvernementaux. Oh, vraiment. Esther a déjà des pouvoirs gouvernementaux. Esther a la position d'Aman désormais. C'est-à-dire la position la plus élevée autour du roi. Alléluia. Que quelqu'un dise. Amen. Et Mardoché, qui avait déjà été élevé en dignité, a donc paru devant le roi. Le roi le voyait pour la première fois. Le roi voyait celui qui avait sauvé la vie pour la première fois. Car Esther avait fait connaître sa parenté avec Mardoché. Dit quelqu'un va te présenter au nom de Jésus. Oh! Dis-toi même en tant qu'Esther, tu vas présenter les autres. Tu vas présenter au nom de Jésus. Alléluia! Parce que tu seras élevé en dignité toi-même. Tu vas atteindre, tu vas avoir une position divine devant ton Père pour avoir un impact sur encore un plus grand nombre. Alléluia. C'est ça l'élargissement. C'est ça l'expansion. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Le roi ôta son anneau qu'il avait remis à Aman et il la donna à Mardoché. Alléluia. Esther, de son côté, a établi Mardoché sur la maison d'Aman. Ça veut dire qu'on a donné l'autorité à Esther. Et Esther a délégué cette autorité à Mardoché pour agir au quotidien. Et désormais, la bague de pouvoir que Aman portait pour agir comme il a agi, c'est Mardoché qui porte désormais et qui est appelé à agir à cette position. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans le monde spirituel. Les positions sont spirituelles. Il ne faut pas penser qu'il s'agit de quelconque poste des hommes nominés à gauche et à droite. Non, on laisse ça aux hommes. Notre bataille est spirituelle. Et nos positions sont spirituelles. Et l'impact de ce que nous faisons est spirituel. Et elle se manifeste physiquement dans ce que l'Éternel veut faire établir. Alléluia. Et l'impact se voit sur nous quand nous marchons dans le monde. Alléluia. Dans nos vies. Mais ce n'est pas tout. Le but poursuivi par rapport au peuple n'est pas encore atteint à la fin du jeûne d'Esther. Beaucoup de choses se sont déjà passées. Beaucoup de choses sont déjà inversées. Le jeûne d'Esther permet d'être positionné. Le jeûne d'Esther permet de retourner la main, de retournement de situation. Le jeûne d'Esther permet de reprendre la main d'autorité. Le jeûne d'Esther permet d'être placé dans une position où maintenant les déclarations vont porter du fruit. Le jeûne d'Esther permet de se positionner dans une position d'action, de foi et d'action. Alléluia. Parce qu'il faut poursuivre le but initial. Lorsque tout ça a été fait, nous sommes le même jour, le quatrième jour, le lendemain. Esther dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, oh, mes frères et mes soeurs, apprenez à prier comme ça. Quand nous crions à notre Père, Père, Jésus, Jésus, si je trouve grâce devant toi, si la chose te paraît convenable, mon Dieu, si je suis agréable à tes yeux, Papa, permets que ceci se fasse. Oh my God, que la parole de Dieu nous instruise. Qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Voilà la demande d'Esther. Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, je vous ai déjà dit que quand on dit voici, prenez ça en ce temps, c'est-à-dire c'est une situation qui est spirituellement établie. Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs. Écrivez donc en faveur des juifs. Comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Ça dit, moi je vous ai donné le pouvoir. Vous avez en main tous les éléments nécessaires pour changer la situation. Vous avez en main tous les éléments nécessaires pour changer la situation. Vous allez mon nom à Nano. Vous avez mon autorité déléguée. Je vous ai donné le droit d'écrire à mon nom. Écrivez vous-même. Pourquoi cela? Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut pas être révoquée. C'est exactement ça. Parce que quand j'ai dit. Je ne peux pas revenir dessus. C'est valable déjà chez les hommes parce que Assyrus était un roi du monde. Mais cette loi est valable même pour Dieu aussi. Dieu dit que quand il a libéré, il a libéré. Il ne se repent pas des choses qu'il a faites. Il n'est pas un homme pour mentir ou pour contourner sa parole. Quand Dieu a dit, il a dit. C'est pareil. Donc, il y a une lettre qui a été signée officiellement en son nom. Il dit, cette lettre-là, personne ne peut la revoquer. Pourquoi? Parce que si je peux déjà revoquer celle-ci, je peux revoquer celle de demain. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Mais par contre, la situation a changé. Désormais, c'est vous qui avez le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, écrivez. Vous dites que Aman a écrit des choses. Vous aussi, écrivez. Écrivez en votre faveur. Oh! Ouh. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous dit de prendre un jeûne afin de nous trouver dans une position spirituelle où ce que nous allons déclarer va prendre vie. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Afin que ce que l'Esprit de Dieu va mettre dans notre cœur pour déclarer dans les situations va prendre vie et sera irrévocable. Alléluia. Ce que moi j'ai compris en lisant ça, c'est qu'il a pris Mardoché et Esther, conscient de ça, je vous assure mes frères et mes sœurs, parce que les décrets qu'ils ont signés, qu'ils ont conçus, rédigés et qu'ils devaient publier, on nous dit que ça a été publié au courant du mois de Sivan. C'est 2 mois après le mois de Nissan. Ça veut dire que Esther et Mardoché, le pouvoir en main, ont pris du temps pour rédiger. Puisque le jour J n'allait arriver que dans 12 mois, ils ont pris du temps pour rédiger. Ils ont pris du temps pour former les décrets contraires. Ils ont pris du temps pour rédiger le droit qui devait leur être favorable. Mes frères, mes sœurs, ça nous parle. Ça nous parle. Parce qu'il ne faut pas déclarer pour déclarer. Il faut rentrer dans la quête et chercher la communion avec le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit révèle véritablement les choses à proclamer. Vous savez, quand nous entrons en prière et que je dis souvent dans les réunions, dans les rencontres de femmes de foi et d'action, vous voyez dans nos programmes que nous faisons des jours et nous clôturons pas des proclamations prophétiques. Ce sont des proclamations que nous recevons, que nous devons de recevoir de l'Esprit Saint. Alléluia. Moi, j'ai déjà reçu cet enseignement. Je sais que ça fait partie de mon ministère. Faire des proclamations que nous recevons de l'Esprit Saint. Pas ce qui nous monte dans la tête. Mais ce que, dans un plan comme celui-ci, vient de Dieu lui-même. Que l'Esprit de Dieu nous inspire quand nous nous positionnons en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça qui porte la vie. Et c'est ça qui permet à l'Éternel Dieu notre Père d'étendre son règne et de récupérer les territoires distémés, de repousser l'ennemi au bras et de défaire les plans de l'ennemi. Alléluia. Et de remettre les choses, de remettre les situations comme à son origine, en conformité avec son plan. Et les plans de bonheur et pas de malheur. Alléluia. Pour sa création entière. Parce que notre Seigneur Jésus nous dit, allez jusqu'aux extrémités du monde. Faites des nations mes disciples. Il s'agit de ça. Ce n'est pas seulement les individus. C'est tous les systèmes. C'est l'ensemble. Alléluia. Et voilà. Et voilà ce que Esther et Mardoché ont donc mis en place pour diffuser aussi dans tout le territoire et particulièrement dans le peuple juif aussi, dans tout le territoire. On écrivit au roi, on écrivit au nom du roi Assyrius, et l'on scella avec l'anneau du roi. Par ces lettres, le roi donnait aux juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de se et défendre leur vie, le droit de se défendre, de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de les livrer leurs biens au pillage. Et cela, en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assyrius, le 13e du 12e mois. Le texte est bien précis. C'est-à-dire, le texte est fait pour contrecarrer les premiers textes. Et les premiers textes donnaient à tous l'ordre d'aller tuer les juifs partout où ils allaient trouver et de les piller. Et ça allait se faire en un jour, ce 13e jour-là. Maintenant, eux ici, ils ont écrit en disant, comme on ne peut pas empêcher aux gens d'en face de faire ce qui leur a été ordonné, comme nous, on était un peuple soumis, on n'avait même pas le droit de se défendre. Donc, ils devaient venir nous attaquer. Et nous, on allait être complètement désarmés. Et on n'allait même pas avoir le droit de nous défendre. Puisque le roi ne nous a pas donné l'ordre de nous défendre. Maintenant, nous allons écrire aussi. Déjà, un, pour avoir le droit de nous défendre. De nous rassembler contre tous ceux qui viennent nous attaquer. Nous allons avoir le droit, le même droit que de faire contre eux ce qui leur a été ordonné de faire contre nous. C'est aussi notre droit. Mais nous n'allons agir que contre ceux qui viennent nous attaquer. Alors que eux, ils devaient agir contraints et forcés contre tous. Donc, vous êtes chez vous. Si on vient vous attaquer, vous avez le droit de vous défendre. Voilà l'édit qui a été publié dans toutes les provinces du roi d'Assyrus. Le 13e du 12e mois. Qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informer tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. La stratégie qui était mise en place, c'était faire un effet de dissuasion, neutraliser les forces ennemies, contenir les assauts par peur de réaction. Parce que quand on dit aux gens « allez attaquer là-bas », ils n'ont pas le droit de se défendre. Les attaquants sont confortés dans l'idée qu'ils n'auront pas de résistance. Donc, ils ne risquent rien. Ils sont dans une position de force. Mais, s'ils ont des décrets contraires, s'ils sont informés que ceux qui vont aller attaquer là, ils ont aussi le droit de se défendre et qu'ils se sont préparés pour réagir, ça va dissuader quelques-uns quand même. Parce qu'il y a un petit équilibre de force qui se met en place. Et qui fait que ceux qui hésitaient se disent que non, moi je ne vais pas aller. Parce que moi je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais revenir. Parce que comme lui là aussi, le droit de se défendre, on ne sait pas qui va tomber. Donc moi je reste chez moi. C'est une force dissuasive. C'est déjà un point. Mais c'est aussi une force de contre-attaque. Parce qu'il y a toujours des téméraires qui vont se lever pour aller attaquer quand même. Donc il faut qu'ils trouvent une réaction en face. C'est clair, c'est un acte de l'homme. Et c'est aussi un moyen de contenir les assauts. Le fait de permettre que les gens se rassemblent, le fait de permettre que les gens parlent entre eux, ça dit qu'ils fassent aussi leur stratégie. Ils vont contenir les assauts. Donc c'est une situation qui présente une situation de conflit. Et mes frères, mes sœurs, nous sommes ici dans l'Ancien Testament. On faisait beaucoup de guerres, on faisait beaucoup de choses. Le droit se revendiquait par l'affrontement, par les batailles, nous le savons. Mais aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Christ, notre Seigneur et notre Roi. Qui prône plus la paix qu'autre chose? Qui prône l'entente? Qui prône l'amour du prochain? Et c'est dans ce contexte que nous allons vers l'Éternel. Et nous disons oui. Par la puissance de ta main, ô Père. Toutes ces choses-là qui prennent place. Mais que la conséquence de cela soit la neutralisation. Alléluia. Que les uns se disent que je ne veux plus me lever pour attaquer mon voisin. Parce que il a les mêmes droits que moi. Nous sommes dans un pays de droits, nous sommes dans des pays d'égaux. Il n'y a pas les uns qui sont supérieurs aux autres. Il n'y a pas les sous-espèces ou les sous-sommes. Il n'y a pas que nous, on a le pouvoir et vous, vous n'avez rien d'on va cogner sur vos têtes. Saint-Esprit de Dieu, Père, que ta main puissante soit pour mettre ça dans l'esprit des gens. Qu'ils considèrent, comme notre Seigneur Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain. Que par ta main puissante et par ta grâce, tu mettes dans l'esprit des uns et des autres, Père éternel, la crainte qui va le faire revenir à de bonnes dispositions. Établis ta paix, même dans la crainte de perdre la vie de tous, au nom de Jésus. Père éternel, moi je crois en ça. Je crois que ce que l'Éternel veut faire est en droite ligne avec cette saison et son temps, en droite ligne avec sa parole, en droite ligne avec son royaume. Et son royaume est en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, qui a souffert déjà dans sa chair, afin que nous, nous ne souffrions pas. Alléluia. Et je crois, parce que la différence entre ce que Esther et Mardoché ont fait, eux qui ont la crainte de l'Éternel, c'est de faire des édits qui soient des édits de défense et pas d'attaque. Ils n'ont demandé à personne d'aller à l'attaquer. Ils ont permis le droit de se défendre. Et leur édit a supprimé quelque chose que Aman avait mis dans le sien, le pillage. Il leur avait dit tuer, détruisez, exterminez et pillez-les. Mardoché et Esther ont dit, ayez le droit de vous défendre. Vous défendre contre ceux qui viennent vous attaquer. Mais ne pillez pas. Amen. Ne pillez pas. Défendez-vous. N'attaquez pas. Ne pillez pas. Alléluia. Il y a quand même une différence entre la manière de Aman et la manière de Mardoché. Et c'est lié à la crainte qu'ils avaient de leur Dieu. Et c'est lié à la loi qui était la leur, au Dieu qu'ils adoraient. Alléluia. Et c'est pareil pour nous. C'est le même Dieu. Et aujourd'hui, nous prions pour que la grâce qui accompagne la vie de Jésus-Christ emplisse les cœurs des hommes, emplisse les cœurs du peuple, de celui qui se considère le plus grand à celui qui se sent le plus petit. Car il n'y a pas de différence devant Dieu. Nous sommes sa créature. Nous sommes tous ses enfants. De celui qui se sent brimé à celui qui pense qu'il a le pouvoir pour brimer, que par son esprit, le Seigneur mette dans leur cœur sa crainte d'abord et l'amour du prochain, la considération de l'autre. Même le système mondial, les humains même ont fait les droits de l'homme. Et il commence par dire que nous sommes tous égaux, en droit, en dignité, tous égaux. Et que nul ne devrait se prévaloir, être supérieur à l'autre. Que l'Éternel Dieu, notre Père, inscrive cela, rappelle cela à la conscience de ceux qui fonctionnent en pensant qu'ils ont les droits de vie ou de mort sur les autres, qu'ils ont le droit de conduire les autres à l'échafaud, de créer des situations de trouble, de désordre. Je ne sais pas qui fait quoi, peu m'importe, mais Dieu, notre Père, il sait. Et c'est lui qui agit. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur, d'appeler tes enfants à se lever au Père éternel, afin que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Amen, amen, amen. Oh. Et la parole, le chapitre 10 continue à dire, ce jour-là, malgré tout ça, dans les peuples, ce jour-là vint, et les attaquants ont attaqué, et les défendeurs se sont défendus, ça a fait des rixes, il y a eu des morts, les populations ont été détruites, des gens ont perdu la vie. mais nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous avons ce privilège de fonctionner sous une autre onction. Nous avons le privilège de fonctionner avec l'air du Saint-Esprit environnant. Nous avons l'air de fonctionner. Nous sommes dans l'air du fonctionnement avec le sang de Jésus qui triomphe au travers de ce jeûne. Nous aspergeons le sang de Jésus-Christ sur toute la population, dans tout ce pays et dans tous les pays en souffrance qui souffrent de ces mêmes maux au nom de Jésus, afin que le règne de Père vienne et que sa volonté se fasse. Alléluia. Afin que certaines choses soient changées à la base, afin que sa crainte envahisse les cœurs et afin que l'amour du prochain soit dans les cœurs et que le jour J qui est prévu ne soit pas un jour de destruction, mais un jour de joie, un jour de construction, un jour de rapprochement. Au nom puissant de Jésus, que ce soit un jour de paix, un jour d'amour, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà le contexte. Je vais terminer ce message par des remarques que j'ai faites par rapport à la conduite du jeûne d'Esther. Nous acceptons de prendre un jeûne.